I am grateful to be with you this evening in the
general. Je suis reconnaissant d'être avec vous ce soir à la réunion générale de la prêtrise de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. C'est un grand moment dans l'histoire de l'Église. En 1834, il y a 182 ans, à Kirtland, Ohio, toute la prêtrise était appelée à se réunir dans une école en rondin de 4 mètres sur 4. On rapporte qu'à l'occasion de cette réunion, Joseph Smith, le prophète, a dit « Vous n'en savez pas plus concernant la destinée de cette Église et de ce royaume qu'un petit enfant sur le genou de sa mère. Vous ne la comprenez pas. Vous ne voyez qu'une petite poignée de détenteurs de la prêtrise ici ce soir. Mais l'Église remplira l'Amérique du Nord et du Sud. Elle remplira le monde. » Des millions de détenteurs de la prêtrise dans plus de 110 pays sont réunis dans cette session. Peut-être Joseph le prophète a-t-il vu cette époque et l'avenir merveilleux qui est devant nous. Je vais tenter ce soir de décrire cet avenir et ce que nous devons faire pour faire partie du plan de bonheur que notre Père Céleste nous a préparé. Avant de naître, nous avons vécu en famille avec notre Père Céleste exalté éternel. Il a ordonné un plan qui nous permet d'avancer, de progresser, afin de devenir semblable à lui. Il l'a fait par amour pour nous. L'objectif du plan était de nous donner la possibilité de vivre à jamais, comme notre Père Céleste vit. Ce plan d'évangile nous offrait une vie dans la condition mortelle, au cours de laquelle nous serions mis à l'épreuve. La promesse nous a été faite que, grâce à l'expiation de Jésus-Christ, si nous obéissions aux lois et aux ordonnances de l'Évangile, nous aurions la vie éternelle, le plus grand de tous ces dons. La vie éternelle est le genre de vie qu'a Dieu, notre Père Céleste. Dieu a dit que son dessein est de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Le grand dessein de chaque détenteur de la prêtrise est donc d'aider les gens à parvenir à la vie éternelle. Chaque effort de la prêtrise et chaque ordonnance de la prêtrise sont conçus pour aider les enfants de notre Père Céleste à être transformés grâce à l'expiation de Jésus-Christ afin de devenir membres de cellules familiales rendues parfaites. Il s'ensuit que la grande œuvre de tout homme est de croire en l'Évangile, de respecter les commandements et de créer et de perfectionner une cellule familiale éternelle et d'aider les autres à faire de même. Puisque cela est vrai, tout ce que nous faisons devrait avoir comme centre et objectif le mariage éternel, le mariage céleste. Cela signifie que nous devons nous efforcer d'être scellés à un conjoint pour l'éternité dans le temple de Dieu. Nous devons également encourager les autres à contracter et respecter les alliances qui unissent un mari et sa femme et leurs enfants à eux dans cette vie et dans le monde à venir. Pourquoi cela doit-il avoir autant d'importance pour chacun d'entre nous, jeunes ou vieux, diacres ou grands prêtres, fils ou pères? C'est parce que notre obligation de détenteur de la prêtrise est de placer notre famille et celle des autres qui nous entourent au centre de nos préoccupations. Toutes les décisions importantes doivent être prises en fonction de l'effet qu'elles produiront sur une famille, afin qu'elles se qualifient pour vivre avec notre Père Céleste et Jésus-Christ. Rien n'est plus important que cela dans notre service de la prêtrise. Je vais vous dire ce que cela peut signifier pour un diacre qui écoute ce soir en tant que membre d'une famille et membre d'un collège. Dans sa famille, il se peut que la prière en famille ne se fasse pas régulièrement ou que la soirée familiale ne soit pas tenue fréquemment. Si son père, conscient de ses obligations, appelle la famille à se réunir pour la prière ou l'étude des Écritures, le diacre peut se dépêcher à venir et participer avec le sourire. Il peut encourager ses frères et sœurs à y participer et les féliciter lorsqu'ils le font. Il peut demander une bénédiction à son père à la rentrée des classes ou à un autre moment où il en a besoin. Il se peut que son père ne soit pas aussi fidèle, mais le simple désir de son cœur de vivre ses expériences attirera les pouvoirs du ciel en faveur de son entourage, du fait de sa foi. Les siens rechercheront la vie de famille que ce diacre veut de tout son cœur. L'instructeur dans la prêtrise d'Aaron peut trouver dans sa tâche d'enseignement au foyer une occasion d'aider le Seigneur à transformer la vie d'une famille. Le Seigneur l'a laissé entendre dans les Doctrines de l'Alliance. Le devoir de l'instructeur est de toujours veiller sur les membres de l'Église, d'être avec eux et de les fortifier, de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'iniquité dans l'Église, ni de dureté réciproque, ni de mensonge, de calomnie ou de médisance. De même, la responsabilité du prêtre dans la prêtrise d'Aaron est la suivante. Le devoir du prêtre est de prêcher, enseigner, expliquer, exhorter, baptiser et bénir la Sainte Cène, de rendre visite à chaque membre et de l'exhorter à prier haute voix et en secret et à remplir tous ses devoirs de famille. Vous vous demandez peut-être comme je l'ai fait lorsque j'étais un jeune instructeur et un jeune prêtre, comment être à la hauteur de ses responsabilités. Je ne savais jamais trop comment je pouvais exhorter d'une manière qui fasse avancer une famille vers la vie éternelle sans offenser ou sembler critiquer. J'ai appris que la seule exhortation qui change le cœur est celle qui vient du Saint-Esprit. Cela se produit plus souvent lorsque nous témoignons du Sauveur, qui était et est le membre parfait de la famille. Si nous nous concentrons sur notre amour pour lui, l'harmonie et la paix augmenteront dans les foyers que nous visitons. Le Saint-Esprit nous assistera dans notre service auprès des familles. Le jeune détenteur de la prêtrise peut, par la manière dont il prie, par la manière dont il parle et par la manière dont il encourage les membres de la famille, susciter dans leur esprit, dans leur cœur, l'influence et l'exemple du Sauveur. Un dirigeant de la prêtrise sage m'a montré qu'il comprend de cela. Il a demandé à mon jeune fils de prendre en main une visite d'enseignement au foyer. Il a dit que la famille risquait de s'opposer à ses exhortations, mais qu'il pensait que l'enseignement et le témoignage simple d'un garçon avaient plus de chances de pénétrer le cœur endurci de ces gens. Que peut faire le jeune ancien pour contribuer à la création de familles éternelles? Peut-être est-il sur le point de partir en mission. Il peut prier de tout son cœur afin de pouvoir trouver, instruire et baptiser des familles. Je me souviens encore d'un beau jeune homme et de sa délicieuse épouse, et ainsi que de leurs deux jolies petites filles, assis un jour avec mon compagnon, missionnaire et moi. Le Saint-Esprit leur a témoigné que l'évangile de Jésus-Christ avait été rétabli. Ils croyaient assez pour demander si nous pourrions donner une bénédiction aux deux petites filles, comme ils l'avaient vu faire lors de nos réunions de Sainte-Cène. Ils avaient déjà le désir que leurs enfants soient bénis, mais ils ne comprenaient pas encore que les véritables bénédictions ne pourraient leur être accessibles que dans les temples de Dieu, après qu'ils auraient contracté des alliances. Cela me fait encore mal de penser à ce couple et à ces deux petites filles, probablement âgées maintenant, qui n'ont pas la promesse d'une famille éternelle. Leurs parents avaient au moins une vague idée des bénédictions qui pouvaient leur être accessibles. J'espère que d'une façon ou d'une autre, quelque part, ils peuvent encore avoir la possibilité de se qualifier pour être une famille éternelle. D'autres anciens partant en mission vivront l'expérience plus heureuse que mon fils a vécue. Matthieu, son collègue et lui ont trouvé une veuve avec 8 enfants vivant dans la pauvreté. Il voulait pour eux ce que vous voulez, une famille éternelle. Cela paraissait impossible aux yeux de mon fils, ou du moins improbable pour le moment. Je me suis rendu dans cette petite ville des années après que mon fils a baptisé la veuve, et elle m'a proposé de me présenter ses enfants. J'ai dû attendre un moment parce que ses enfants, ainsi que ses nombreux petits-enfants, venaient de différentes paroisses de la région. L'un de ses fils servait fidèlement dans un épiscopat, et chacun de ses enfants avait reçu ses alliances du temple et était scellé en une famille éternelle. Quand j'ai pris congé de cette chère sœur, elle m'a passé le bras autour de la taille et m'a dit, elle était toute petite, elle peut à peine arriver à ma taille, et elle m'a dit, s'il vous plaît, dites à Matteo de revenir au Chili avant que je meure. Grâce à ses anciens fidèles, elle attendait joyeusement le plus grand de tous les dons de Dieu. Il y a des choses qu'un ancien, sur un tour de mission, doit faire pour être fidèle à son engagement de rechercher la vie éternelle pour lui-même et pour ses êtres chers. Il n'y a pas d'engagement plus important dans le temps de l'éternité que le mariage. Vous avez entendu de sages conseils sur la priorité à accorder au mariage dans les premiers plans pour après la mission. Le serviteur fidèle de la prêtrise le fera avec sagesse. En envisageant le mariage, il verra qu'il est en train de choisir le père ou la mère de ses enfants et l'héritage qu'ils auront. Il fera le choix par une recherche sincère et un examen de la question dans la prière. Il s'assurera que la personne qu'il épouse a les mêmes idéaux que lui quant aux enfants, les mêmes convictions quant à l'objectif du Seigneur pour le mariage, et que c'est une personne à qui il est disposé à confier le bonheur de ses enfants. N. Eldon Tanner a donné le sage conseil suivant. Les parents que vous devez honorer plus que tout autre sont les parents de vos futurs enfants. Ces enfants ont le droit d'avoir les meilleurs parents que vous puissiez leur donner, des parents purs. La pureté sera votre protection et celle de vos enfants. Vous leur devez cette bénédiction. Ce soir, il y a des maris et des pères qui écoutent. Que pouvez-vous faire? J'espère que le désir d'opérer les changements nécessaires afin que vous et votre famille puissiez un jour vivre dans le royaume céleste a grandi en vous. En tant que père détenteur de la prêtrise, avec votre femme à vos côtés, vous pouvez toucher le cœur de chacun des membres de votre famille et les inciter à attendre ce jour avec hâte. Vous assisterez à vos réunions de Sainte-Cène avec votre famille. Vous ferez des soirées familiales au cours desquelles le Saint-Esprit pourra se manifester. Vous prierez avec votre femme et vos enfants et vous vous préparerez à emmener votre famille au temple. Vous avancerez avec eux sur le chemin qui mène à une famille éternelle. Vous traiterez votre femme et vos enfants de la manière dont notre Père Céleste vous a traité. Vous suivrez l'exemple et les indications du Sauveur pour diriger votre famille à sa manière. Aucun pouvoir, aucune influence ne peuvent ou ne devraient être exercés en vertu de la prêtrise autrement que par la persuasion, par la longanimité, par la gentillesse, par la douceur et par l'amour sincère. Par la bonté et la connaissance pure qui épanouiront considérablement l'âme sans hypocrisie et sans fausseté, et réprimandant avec rigueur en temps opportun sous l'inspiration du Saint-Esprit et faisant preuve ensuite d'un redoublement d'amour envers celui que tu as réprimandé, de peur qu'il ne te considère comme son ennemi. Le Seigneur a dit aux pères détenteurs de la prêtrise le genre de mari qu'ils doivent être. Il dit, tu aimeras ta femme de tout ton cœur et tu t'attacheras à elle et à personne d'autre. Lorsque le Seigneur parle au mari et à la femme, il commande, tu ne commettras point d'adultère ni ne feras rien de semblable. Pour les jeunes, le Seigneur établit la norme. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur, et honore ton père et ta mère. Lorsque le Seigneur parle à tous les membres de la famille, il leur conseille de s'aimer et de se soutenir les uns les autres. Il nous demande de nous efforcer de perfectionner la vie de chaque membre de la famille, de fortifier les faibles, ramener les êtres chers qui s'égarent et de nous réjouir du renouvellement de leurs forces spirituelles. Le Seigneur nous a également demandé de faire tout notre possible pour aider nos ancêtres décédés à être avec nous dans notre foyer éternel. Le chef de groupe des grands prêtres qui a œuvré diligemment pour aider les gens à trouver leurs ancêtres et à apporter les noms au temple secourt les personnes décédées. Il y aura des remerciements dans le monde à venir pour ces grands prêtres et pour les gens qui offrent les ordonnances parce qu'ils n'ont pas oublié leur famille qui attend dans le monde des esprits. Les prophètes ont dit, la partie la plus importante de l'œuvre du Seigneur que vous accomplirez jamais se fera au sein de votre foyer. L'enseignement au foyer, le travail de l'épiscopat et les autres devoirs dans l'Église sont tous importants, mais le plus important est ce qui se fait chez vous. Dans votre foyer, dans votre service de la prêtrise, ce sont les petits actes qui auront le plus de valeur. Ceux qui nous aident, nous et nos êtres chers, à travailler en vue de la vie éternelle, ces actes peuvent paraître petits dans cette vie, mais ils apporteront des bienfaits éternels dans l'au-delà. En aidant fidèlement les enfants de notre Père Céleste à retourner auprès de lui, nous nous qualifions pour les paroles d'accueil que nous voulons tous tant entendre lorsque nous aurons terminé notre ministère terrestre. Ces paroles sont « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Parmi ces beaucoup se trouvent les promesses d'une postérité infinie. Je prie pour que nous qualifions tous et aidions les autres à se qualifier pour cette bénédiction divine dans leur foyer de notre Père et de son Fils Jésus-Christ. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.